time.
Tonga! Get in the hole!
What'd you do?
Adieu. Adieu, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui te pente?
Ah, tu meurs.
Oui, et si t'en veux encore, voilà.
Ah, tu veux y aller comme ça?
Vous pouvez pas aller régler vos comptes à gueule?
Toi, ta gueule! Si tu en veux aussi, approche. Laisse-moi d'abord crever celui-là, je serai à toi après.
Je te préviens, attention, encore un pas et c'est toi qui seras crevé.
Reste tranquille, tous les deux. Si quelqu'un doit tuer un homme ici, je m'en charge.
C'est une affaire personnelle, Warden.
Pas du tout. Cet homme est de ma compagnie. Et c'est pas toi qui feras les paperasses pour moi si tu le mets en l'air, hein?
Et tu parles de le crever, mais tu te tomberais dans les pommes si tu voyais un gars avec les boyaux dehors.
Pousse ce tabouret!
Jette ton couteau. Ça va, grand double, puisque tu y tiens absolument. Bien.
Atmosphère! Atmosphère! Est-ce que j'ai une gueule d'atmosphère?
Willkommen, bienvenue et bonsoir. Bonsoir mes chers auditeurs, bonsoir mes chères auditrices et bonsoir à tous les autres. Voilà, vous êtes sur les ondes bénéfiques, rassurantes et intelligentes de RDWA 107.5 et vous êtes en train d'écouter l'émission Arrête ton cinéma ATC 143e du nom. Alors, ô cher auditeur, ô chère auditrice assidue, il n'est point besoin de vous rappeler que vous pouvez retrouver cette émission, comme toutes les autres d'ailleurs, sur le broadcast éternel du www.rdwa.fr. Non, il n'est point utile, comme je le dis à chaque fois, et pourtant, que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer qu'un vol d'hirondelle, que l'hiver est arrivé? Bon, voilà, hein, c'était la petite page musicale, voilà. Alors, si la semaine dernière... Si vous m'aviez prêté l'oreille, ô cher auditeur, ô chère auditrice, on en était à l'asphalte. Oh, voiture beaucoup motorisée avec des pneus SACOM. Oui, c'était la session Too Fast and Furious. Et aujourd'hui, point de cela. Non. On va continuer notre siècle de cinéma. Voilà notre voyage à travers 100 ans de cinéma et plus, si affinité. Et donc, si vous aviez bien calculé, si vous avez fait tous vos petits devoirs, parce que oui, je ramasserai des copies. Oui, messieurs, dames, je viendrai chez vous, je viendrai chez toi, je toquerai, même s'il est 2h du matin, je n'en ai rien à carrer. Je viendrai reprendre mes devoirs pour savoir si, ô toi auditeur, ô toi auditrice, vous avez bien écouté cette émission. Voilà. Donc, si vous avez tout bien calculé, nous sommes en 1953, c'est évidemment la mort de Staline, mais évidemment, ça n'a pas à voir grand-chose avec notre sujet d'aujourd'hui. Alors, s'il est vrai que nous avions commencé déjà une émission avec Fred Zinnemann, avec, souvenez-vous, le film « Le train sifflera trois fois », on va reprendre ce bon vieux Fred, mais cette fois-ci avec « Tant qu'il y aura des hommes ». Alors, 6 personnages, 4 hommes, 2 femmes. Tout se passe sur une base américaine, la base militaire des îles Hawaï. Voilà. Hawaï, la peinture, l'Hawaï. Voilà. Donc, évidemment, tout se passe la veille de l'attaque japonaise sur Pearl Harbor, le 7 décembre 1981, l'événement qui provoquera l'entrée en guerre des États-Unis et le début, évidemment, de la guerre du Pacifique. Alors, Burt Lancaster y joue le sergent Milton Warden, Montgomery Clift, le beau Montgomery Clift, hein, l'égérie de ces dames, et pourtant joue le soldat Robert Leprevitt, qui est un boxeur dans le civil. Frank Sinatra interprète, lui, le soldat Angelo Maggio, un petit comique. Et puis Ernest Borgnine, lui, joue l'impitoyable sergent Judson, le fameux sergent de la compagnie de discipline. Hein, évidemment, le pas gentil du film. Deborah Kerr, elle, sera Karen, l'épouse du capitaine, et elle vit une petite idylle avec Warden, une idylle évidemment adultérine. Oh, c'est beau ça, une Voilà une idylle adultérine. Oh, on a l'impression qu'on mange de la terrine. Mais non, 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 c'est, voilà, c'est bien une relation adultère. Et évidemment, le dernier personnage sera joué par Donna Reed, qui est une prostituée. Eh ben oui, forcément, hein, quand qui dit soldat dit prostituée, c'est une obligation dans le cinéma et la littérature aussi, hein, évidemment. Voilà. Alors, Privet. Donc, Montgomery Clift, si vous avez bien suivi, hein, s'il vous plaît, merci bien, refuse, malgré l'insistance de ses supérieurs, de reprendre le chemin des rings. Et oui, parce qu'il a blessé un de ses camarades et l'a rendu même aveugle, hein, on peut le dire, hein, le mec, il n'y voit plus rien. Bah oui, c'est un grand classique chez les boxeurs du cinéma, c'est-à-dire qu'il y a toujours ce concept que « Ah, c'est le dernier combat, mais... » Si jamais ça se passe mal, il finira aveugle. Et ben voilà, Privet a boxé avec un de ses copains et il est devenu aveugle. Donc il a juré de ne plus reprendre les gants. Et pour cela, il va devenir le bouc émissaire, hein, évidemment. Alors Warden le protège. Hein, la prostituée Alma Burke, dite Lorraine, oui, c'est celle qui... Oui, pas Lorraine, ni la quiche, ni la Lorraine d'Angleterre, mais bien la prostituée, le réconforte. Oui, parce qu'évidemment, la prostituée dans les cinémas américains a toujours cette image, vous vous souvenez peut-être de la chevauchée fantastique, hein, la célèbre Dolly, hein, évidemment, des saloons, hein, voilà, qui est quand même une bonne fille, même si elle a la jambe légère, mais le cœur gros. Jambe légère, mais le cœur gros. Alors, Maggio, Frank Sinatra, hein, son pote d'origine italienne. Ah, Sinatra, hein, l'Italie, une grande histoire d'amour, hein, surtout à l'ombre de Las Vegas, comprend qui peut, va lui offrir son amitié. Alors, Maggio sera condamné au camp disciplinaire parce que, voilà, monsieur joue les fortes têtes et surtout les justiciers. Là, il va rencontrer Judson et ça va très très mal se passer puisque voilà, Judson va le brimer, le descendre, le bousiller et voilà, ce cher Maggio va décéder sous ses coups. Il lui a tellement tapé sa gueule qu'il a décédé, voilà, hein, comme dirait mon cher compagnon de Kaamelott. Et donc Privet, enragé par cette injustice, va aller poignarder Judson. Blessé, il va déserter. C'est alors que, évidemment, l'attaque va avoir lieu. Il décide de rejoindre son unité, et il sera battu par erreur. Ah bah oui, wow. Et oui, déjà les célèbres dommages collatéraux de l'armée américaine, qui a une certaine facilité à abattre ses alliés ou alors ses propres soldats. Mais enfin bon, ça, hein, dans une belle logique de guerre, me direz-vous, en tout cas, hein, la balle ne reconnaît pas son soldat. C'est, voilà, un bel adage de l'armée américaine. Voilà, donc il sera battu par erreur lors de l'attaque de Pearl Harbor. Alors, me direz-vous, voilà, le scénario, c'est ça. Donc, fidèle au goût et à l'esprit du roman éponyme de James Jones, qu'il a écrit en 1952, le film de Franz Zimmermann, qui, rappelez-vous, a quand même réalisé, hein, Le train sifflera trois fois, comme je l'ai dit au début de l'émission, c'est pour ceux qui dormaient au début, hein, reste quand même un exemple marquant du réquisitoire contre la stupidité des hommes et surtout la bêtise militaire, sans doute un pléonasme dans la phrase, et ses manières soldatesques. Esprit qui, dans une Amérique, hein, toujours en proie à une paranoïa communiste et antipatriotique grâce à ce si sympathique sénateur McCarthy. Ah oui, ce si sympathique sénateur. Hey, c'est pas mal ça. McCarthy ne va pas contribuer évidemment à apporter une bienveillance sur le film. Pourtant, curieusement, celui-ci reçut un accueil assez favorable du public. Et il remporta un prix à Cannes, et oui, déjà Cannes, et pas moins de 8 Oscars, meilleur second rôle pour Sinatra et Donna Reed, alors que Montgomery Clift, dit Monty, le bon vieux Monty, Lancaster et Kern seront nominés pour les meilleurs acteurs et actrices et vont céder leur statuette à William Holden, toujours William Holden, pour Stalag 17 de Billy Wilder et notre fair lady Audrey Hepburn pour Vacances romaines dont je vous ai déjà parlé. Voilà, petit passage du film. Le long baiser que vont échanger Burt Lancaster, enfant de la balle, Et Deborah Kerr, sur la plage, sera jugée scandaleusement explicite. Et oui, parce que des fois, quand tu fais un bisou, ben en fait, non. Il n'y a pas d'histoire derrière, c'est-à-dire que tu fais un bisou chaste. Et oui, à l'époque, dans les années 50, à Hollywood, on faisait du bisou chaste. Ah oui, il n'y avait pas derrière que... Non, oulala, non, hein, oula, non. Voilà, donc c'était considéré comme scandaleusement explicite et osé pour l'époque, et aussi, quelques années plus tard, dans les années 80, impitoyablement moqué dans la série « Y a-t-il un pilote dans l'avion ?» avec les fameuses algues qui recouvrent, hein, parce qu'ils lui font bisous, puis la mer arrive, et paf, ils sont pleins d'algues. Ils continuent quand même à faire des bisous, et d'un coup, tu réalises que « Ouh, mais il y a 42 bras, 42 jambes, mais ce n'est pas normal !» Voilà, donc... Bon, malgré tout cela, ce baiser restera dans les fameux baisers légendaires du cinéma. Voilà ce qu'il en est pour Tant qu'il y aura des hommes de Fred Zinnemann. Voilà que je vous conseille d'aller voir. Ce n'est pas évidemment rien à voir avec le film Pearl Harbor qu'on a fait depuis. Alors, en 1954, c'est-à-dire l'année d'après, suis-je coquin ? On va voir Une étoile est née de George Cukor avec Judy Garland, James Mason et Jack Carson. Alors, l'histoire du film est la personnification même d'Hollywood. Il concentre un extraordinaire enchevêtrement de créativité ou de transferts innovants. Une véritable filiation qui excède largement le cadre du remake. Et oui, parce qu'en effet, à l'origine de ce projet, il y a le film réalisé en 1932 par George Cukor himself, What Price Hollywood, quel prix pour Hollywood, dans lequel une employée de maison devient une star de cinéma après avoir été découverte par un cinéaste alcoolique. Là aussi, pléonasme, sait-on jamais, qui finira évidemment par se suicider. Ah oui, en passé ça aussi Hollywood. Hein. Alors en 1937, William Wellman, sur un scénario d'Alan Campbell, Dorothy Parker et Robert Carson, et financé par le futur producteur dont on emporte le vent, souvenez-vous, ce cher David O. Selznick dirige la première version d'Une étoile est née qui s'inspire évidemment largement du film de Cukor. Frédéric Marsh y joue l'acteur vedette sur le déclin Norman Maine. Et Janet Gaynor incarne la provinciale Esther Bolget, qui deviendra grâce à lui la grande actrice Vicky Lester. Adolphe Menjou interprète le producteur Oliver Niles et Lionel Stander, l'agent déloyal Maud Libley. George Cukor avec le scénariste Moss Hart. Alors là, je crois que je dois perdre trois quarts des auditeurs parce qu'ils ne reconnaissent aucun nom. Alors, autant à l'époque, je pense que tout le monde devait savoir qui c'était, devoir avoir même une petite image, hein, peut-être un peu moins qu'aujourd'hui, puisqu'évidemment, il n'y avait pas ni Wiki, ni Facebook, ni Instagram, ou autres réseaux sociaux, ou les tweets. Voilà, donc effectivement, on ne devait pas avoir beaucoup de noms, mais comme voilà, donc hein, ça reste quand même des sommités. Mais à leur époque. Donc ce cher George Cukor avec le scénariste Moss Hart réalise donc en 1954 le remake d'un film inspiré par un de ses propres films. Et oui, le début du recyclage. Et oui, monsieur Cukor était un recycleur de films. Trop fort le type. Alors cette fois-ci, les rôles principaux sont confiés à James Mason et à Judy Garland avec des divers anges notables. Le mélodrame, teinté de comédie, bien que la fin soit tragique, il est vrai, devient plus précisément dramatique. On dénote une nette différence de jeu de Mason, le futur Humbert du Lolita de Kubrick, et marche même si ce dernier fut en 1932 le premier Jekyll-Hyde à l'écran. Et inclut aussi beaucoup de, le film, hein, inclut beaucoup de scènes musicales. Souvenons-nous, nous sommes à l'âge d'or de la comédie musicalesse. Voilà. Alors, et oui. Donc, Judy Garland, avant tout vedette de la chanson, hein, confère au personnage une vérité intime qui devient aussi parallèle à sa propre existence. Et le sort du personnage joué par James Mason, alcoolique et en pleine dérive autodestructrice. Oui, parce que Judy Garland, voilà, hein, parce qu'il faut savoir que Judy Garland est née donc Frances Goom, 1922-1969, est sans doute la plus incontestable victime du système d'Hollywood. C'est-à-dire qu'elle a réussi très jeune dans le cinéma et les producteurs vont la presser. Hein. Elle se bourre de tranquillisants et aussi d'excitants. Hein. Elle va avoir pas mal de retard sur tout ce qui est sur les scènes de tournage. Pardon. Et donc forcément aussi avoir des problèmes avec sa vie privée. Puisque, évidemment, elle va divorcer plusieurs fois. Hein. Et voilà, c'est quand même une étoile brisée. Et elle va épouser aussi, il faut le savoir, le réalisateur Vincente Minnelli. Mariage dont va naître leur fille Lisa Minnelli, qui elle aussi jouera les chanteuses face à l'écran, notamment dans New York, avec De Niro et le fameux Cabaret. Voilà, Judy Garland, la petite fiancée de l'Amérique. Or, pour beaucoup, et surtout pour la MGM, Judy Garland restera la voix de Over the Rainbow, hein, du magicien d'Oz, de Fleming en 1939. Mais bon, revenons à nos moutons et revenons surtout à Une étoile est née, du sieur Cukor. Donc, c'est son second film, hein, puisque rappelez-vous qu'il avait fait un premier en 1962. Donc, ce second film est bien plus long que le premier métrage. Et surtout qu'il est en cinémascope. Judy Garland, enflammée et vibrante, y joue un rôle narratif de premier plan et ce remake rentre de manière plus crue dans le vif du sujet avec davantage de réalisme, le visage caché des rêves et des chimères du celluloïde. Maturité de Cukor ou alors peut-être désillusion du réalisateur sur le monde du cinéma, voire peut-être même les deux. La frêle et ambitieuse Esther Blodgett, donc le personnage, soutenue uniquement par la complicité revêche et par les saines recommandations de sa mamie, telle la mamie de Sophie Marceau dans la Boum, ah les vieux dans les films tout de suite, hein, part seule à la conquête de Hollywood. Thème si cher au cinéma, hein, ces fameuses petites jeunes filles qui rêvent de conquérir Hollywood. Elle végète dans une petite pension grâce au réconfort de son seul ami, le classique période pas cool avant la gloire. Seul donc ami qui est un jeune assistant réalisateur au chômage et sans le sou. Un classique, vous dis-je. Eh ben oui, forcément, hein. Avant la gloire, il faut manger évidemment du pain sec et de l'eau. Ou de l'eau sec et du pain. Alors, lorsque celle-ci parvient à lui trouver un emploi qui lui permet d'entrer, bon, évidemment par la porte de service, toutefois dans le bon monde acidulé d'Hollywood, Esther sera remarquée par la célèbre star des écrans, Norman Maine, voilà, qui s'éprend évidemment tout de suite de la jeune fille. Ah bah oui, ça aussi c'est plutôt classique. La technique Pygmalion, c'est-à-dire que je rencontre une jeune fille, une toute mignonne, moi je suis la grande star, il y a de la reconnaissance, l'amour, et toi tu la formes et... Oui, je n'irai pas plus loin, s'il vous plaît. Hein. Non, arrête ton cinéma, c'est tout de même une émission respectable sur le 107.5 FM. Voilà. Alors, évidemment, l'attirance est réciproque. Il l'épouse. Voilà. Et il introduit. Oh non, on avait dit que c'était une émission respectable. Il l'introduit évidemment dans le monde d'Hollywood. Mais où alliez-vous chercher tout cela? Mais voilà que le début de la gloire de la nouvelle étoile, de la nouvelle star, non, de la nouvelle étoile, Vicky Lester, oui, parce qu'évidemment elle a changé de nom, hein, correspond au déclin de son mentor. Le succès n'est plus au rendez-vous, le public boude, et c'est la célèbre théorie d'Hollywood en 5 phrases. Qui est machin, je veux machin, je veux quelqu'un comme machin, je veux machin jeune et qui est machin? Voilà, donc la carrière d'un acteur de cinéma, voilà, se résume à ces 5 phrases. Il, mais évidemment, hein, monsieur Maine, noie sa dépression dans l'alcool. Marrant, hein, quand les étoiles, évidemment, ne brille plus, elle glisse tout de suite dans une mer d'alcool, c'est assez... Voilà, quand justement Norman sort d'une énième cure de désintoxication, il se remet aussitôt à boire et Vicky alors va décider de renoncer à sa carrière pour rester avec lui. Norman semble aller mieux mais finit par se noyer tout court. Un petit peu à la Jeff Buckley ou alors à Clo-Clo François, mais elle en sent l'applique murale. Bouleversé et désespéré, Esther décide alors de quitter Hollywood pour réintégrer sa ville natale. Le fameux retour à la terre, hein, dirons-nous. Mais sa grand-mère, fière de ses succès et surtout de ses sacrifices, l'oblige à repartir vers les studios en mémoire de Norman. On retrouve dans le film de Cukor les mêmes scènes intenses que celui de Wellman, la cérémonie des Oscars où Norman, ivre, fait scandale en affligeant involontairement une gifle à Vicky lors de la remise de son prix. Ah bah oui, on l'avait déjà vu un petit peu, nous, mais dans la vraie vie, avec Julie Depardieu et la présence de son père lorsqu'elle avait reçu son César, voilà, hein. Il y aura aussi la semonce du juge qui renonce à condamner et à humilier Norman, incarcéré après sa rixe avec le visqueux Libby, où ce dernier l'a frappé, l'esclave évidemment se révoltant contre son maître tombé en disgrâce. Voilà, le juge confie à Vicky, après avoir écouté ses paroles contrites, la garde de son mari et évidemment l'ultime scène, à l'avant-première de son grand retour après le décès de Norman, où Vicky se présente au micro et est applaudie en tant que Madame Norman Maine. Voilà, il y aura aussi un second remake qui sera réalisé en 1976 avec Barbara Streisand et Chris Christopherson. Alors évidemment, là, ce sera le monde du rock hein, qui remplacera celui du cinéma et forcément la substance aussi, puisque là, ce n'est plus l'alcool, mais c'est la drogue. Ah bah oui, chacun son truc. Hein. Ah bah, quand t'es comédien, c'est l'alcool, quand t'es musicien, c'est la poudre. Ah madame, il faut pas à chacun son truc. Hein. Voilà, bon après, le milieu du théâtre, je sais pas quoi, peut-être ils attaquent la tisane, eux, on sait pas, hein. je vais me lancer pour faire des recherches, je sais pas, pour l'instant, voilà, le comédien de théâtre, hein, on demandera à monsieur Ninen, hein, puisqu'il a quitté la comédie française, voilà, donc on pourra même lui demander. Alors évidemment, on va passer une petite musiquette hein, quand même, hein, parce que trêve de blabla, comme dirait l'autre, hein, sur le 107.5 FM, voilà. Hein. Voilà, et puis évidemment, on va laisser parler la voix de Judy Garland, Swanee, évidemment, issue du film A Star Is Born, une étoile est née.
Swanee, how I love you, how I love you, my dear old Swanee, I'd give the world to be among the folks in. Praying for me down by the Swanee. The folks up north will see me no more when I get to that Swanee shore. Swanee, Swanee, I am coming back to Swanee. Mammy, Mammy, I love the old folks at home.
Judy Garland, Swanee, issue du film Une étoile est née. Voilà, hein. Big up Judy Garland, évidemment, star sacrifiée au système. La même année a lieu Sur les quais. Non, pas les quais des brumes, sur les quais. Les quais, c'est là où il y a des quais, vous savez, sur le bord de la mer, avec des bateaux, sur les quais, voilà, d'Elia Kazan. Avec Marlon Brando, Karl Malden, Eva Marie Saint, Rod Steiger et Lee G. Cobbs. Alors, si sa réputation, comme de celle de son réalisateur, Elia Kazan, est teintée d'ambiguïté, le film sur les quais possède tout de même aujourd'hui encore une grande force. L'histoire, tournée en décor naturel, se déroule dans le milieu des dockers du port de New York. Et oui, une émission sans Arrête ton cinéma, sans New York, c'était pas logique. Donc effectivement, New York éternel, entre les quais, les ruelles pauvres et les bâtiments misérables où ces derniers résident. Les travailleurs vivent dans la peur que leur inspire un syndicaliste, Johnny Friendly, G. Lee G. Cobb, qui ressemble davantage à un parrain de la mafia qu'à un défenseur des droits des ouvriers, un peu comme Jimmy Hoffa, mais alors là, dans le milieu des routiers. Les brutes de Friendly, marrant d'ailleurs hein, ce nom Friendly, puisque ça fait plutôt amicalement. Hein, là, pour l'occasion, il n'est pas tellement amical. Donc, les brutes de Friendly évoquent plutôt une belle organisation de raquettes, et je ne parle pas de tennis, évidemment, qu'un syndicat traditionnel, sauf évidemment le syndicat du crime. Personne ne travaille sans que Johnny l'ait décidé, égare à celui qui voudrait jouer les rebelles, et ou même qui songerait à dénoncer l'extorsion, la dîme, dirais-je même, que l'homme prélève de force aux travailleurs et travailleuses, spoliés depuis des septennats et des... Non, mais là, je m'égare. Donc, son bras droit, Charlie Malloy, Rod Steiger, hein, le fameux shérif de la chaleur de la nuit, de M. Jimson en 1967, a un frère, et oui, il a un frère, Terry Marlon Brando, ancien boxeur prometteur, mais hélas sacrifié au nom des paris et des intérêts du parrain. Je vais te faire une petite proposition. Tu vas te coucher. Voilà. Bonne nuit, les petits. Évidemment, dépourvu de conscience professionnelle, Terry trempe dans la combine plus par paresse que par lâcheté. Après avoir participé à la mort faussement accidentelle d'un compagnon qui avait décidé de dénoncer leur racket, Terry est approché par Eddie Doyle, Eva Marie Saints, la sœur du défunt et la fille d'un vieux travailleur portuaire qui lui demande de l'aider à trouver les meurtriers. Lentement, de contradictions en bravoure, Terry va commencer à ouvrir les yeux. Par amour, bien sûr. Quand après un second homicide, son frère Charlie est abattu. Bah oui, parce que, voilà, il avait hélas perdu la confiance de ses employeurs. Terry va donc, comme l'Empire, contre-attaquer. Par vengeance, ou alors pour réclamer justice et faire en sorte que soit respectée la loi et la dignité. C'est un dilemme qui le travaille et qui sera éclairci par la figure décisive du père Barry, Karl Malden, un prêtre catholique qui s'érige en défenseur des opprimés et les incite à se faire connaître, et qui se heurte non seulement à la peur, mais aussi au fameux préjugé si tenace et qui fait de celui qui parle un abominable mouchard. On se souviendra du monologue vibrant de ce prêtre marginal qui, après avoir renoncé à faire de sa paroisse le centre de rachat des dettes, vient à ses risques et périls trouver les ouvriers. Descendu dans la cale d'un navire où les dockers sont en train de décharger la marchandise, il se penche sur le cadavre d'une nouvelle victime et troque les habituels propos et gestes modérés, voire élusifs, d'un prêtre pour cet avertissement menaçant, « Mon église, c'est ici. »« My church is here. » »« Yeah. » Désormais sûr de ce qu'il y a à faire, Terry se présente à l'audience de la commission d'enquête chargée de dénoncer les abus afin de mettre fin à la toute-puissance de celui à qui on ne doit pas prononcer le nom, Johnny, évidemment. Mais l'affaire n'est pas finie. Il doit encore affronter le face-à-face, le mano-à-mano, final, l'épreuve physique avec le méchant. Eh ben oui, forcément, il y a toujours un moment, le héros, voilà. C'est hyper clair, hein. Vous avez remarqué? Donc voilà, je continue. Donc, passé à tabac devant ses compagnons pour lesquels il a tout risqué, mais qui laisse faire lâchement, il faut bien l'avouer, il est une nouvelle fois exhorté par le prêtre et trouve en lui la force de se relever pour franchir de nouveau les grilles de son lieu de travail où il donne une ultime démonstration de l'impuissance de Johnny et de Sia. Enfin, tous le suivent. Alléluia. Voilà. Alors, le film est inspiré d'une enquête journalistique couronnée par un Pulitzer et le film sort au lendemain du témoignage de Kazan qui fournit à la commission des activités anti-américaines les noms de collègues et d'artistes adhérents au parti communiste. Cet organe, coordonné par le sénateur McCarthy, j'en parle beaucoup de ce type en ce moment, j'ai remarqué. Donc le sénateur McCarthy, qui est un républicain en fonction de 47 à 57, figure symbolique de la guerre froide, lance une campagne retentissante de chasse aux sorcières, hein, un peu comme celle de Salem, mais la version bolchevique, destinée à débusquer les sympathisants du communisme dans le milieu intellectuel et artistique. Kazan, avant d'acquérir une grande réputation au cinéma, dans les premières moitiés des années 50, avait été au cours des années 30, celle du New Deal et de la solidarité avec la République espagnole, un metteur en scène de théâtre engagé sur le fond des revendications sociales. Fondateur du groupe théâtre, il a même participé après la guerre, aux côtés de Lee Strasberg, à la création de l'Actor Studio, dont Lee Strasberg sera le directeur en 1951. Voilà, hein, qui va inspirer évidemment toute une nouvelle génération de comédiens. Voilà, Lee Strasberg, qui, rappelons-le, a été aussi le professeur d'art dramatique exclusif de Marilyn Monroe durant plusieurs années, ainsi que celui de Marlon Brando aussi. Donc voilà. Donc il, hein, donc notre cher Elia Kazan, faisait donc partie intégrante de l'élite intellectuelle new-yorkaise de gauche, avant que n'éclate la fameuse psychose anticommuniste. Eh oui, hein, rappelons qu'on est après la guerre, là c'est la guerre froide, hein. Les communistes et les américains ont la bombe atomique et on craint que le monde part en sucette. Voilà, et donc monsieur Elia Kazan fut même brièvement militant au parti communiste américain, clandestin évidemment, avant la guerre. Si bien qu'il fut montré du doigt comme un personnage ambigu, voire même un traître. Cette réputation allait le poursuivre pendant des décennies, au détriment, oui, de son indiscutable talent artistique. Parmi ceux qu'il dénonça, il y avait le dramaturge Arthur Miller, l'un de ses meilleurs amis, avec qui il avait mis en scène plusieurs de ses pièces, notamment « Mort d'un commis voyageur ». Le premier scénario, d'ailleurs, de Sur les quais, avait été signé par Miller et il fut remplacé rapidement par celui de Bud Stulberg. Miller aurait d'ailleurs conçu sa pièce « Vue du port » adaptée par Stanley Lumet en 1961 comme une réplique au film de Kazan et à sa vision de la corruption syndicale. Plusieurs scènes du film présentent Brando se retrouvant à méditer sur le toit de l'immeuble où il vit et où vivait son fameux compagnon victime du premier règlement de compte. Et après sa mort, Terry prend soin de son élevage de colombes. On dirait presque un peu, souvenez-vous, si le fameux Ghost Dog, hein, la voix du samouraï avec Forest Whitaker qui se retrouve aussi sur le toit. Hein. À ce moment, Terry évoque ses oiseaux innocents menacés par les vautours. Après la décision de témoigner, les colombes seront abattues par des blousons noirs, comme ceux de l'équipée sauvage où Marlon Brando d'ailleurs fit ses premiers succès, ses premières armes dirons-nous même, en signe du mépris contre cet acte de délation. Voilà évidemment. Il est plus que probable que M. Kazan voulait suggérer un élément autobiographique évidemment. une conception moderne de la mise en scène, avec une grande importance donnée au bruitage et à la musique de Monsieur Leonard Bernstein, une performance magistrale de Brando. Son blouson à revers tient une place culte dans l'imaginaire, mettant en pratique évidemment la méthode nouvelle de l'acteur studio. Sans trop en faire, comme dans Viva Zapata en 1952, du même Kazan, qui aboutit à une avalanche d'Oscars. Dont un pour saluer la superbe photographie en noir et blanc de Boris Kaufman. Alors voilà, ça a reçu le meilleur film, le meilleur acteur. Et d'ailleurs, les trois rôles masculins secondaires, Cobbs, Malden et Steiger, furent nominés dans la catégorie du meilleur second rôle masculin. Elle reçut aussi la meilleure actrice de second rôle pour Eva Marie Saint. Et c'est Grace Kelly qui l'emportait pour celui de la meilleure actrice dans Une fille de la province. Et comme Johnny, voilà, était le méchant, j'ai décidé qu'il fallait une petite musique pour lui rendre hommage. Alors évidemment, c'est Marie-Noël et Boris Vian qui vont nous chanter « Fais-moi mal, Johnny ».
Il s'est levé à mon approche, debout il était plus petit. Je me suis dit, c'est dans la poche, ce mignon-là, c'est pour mon lit. Il m'arrivait jusqu'à l'épaule, mais il était râpé comme tout. Il m'a suivi jusqu'à ma piole, et j'ai crié, vas-y mon loup, fais-moi mal, Johnny, envoie-moi au ciel. Zoom, fais-moi mal, Johnny, moi j'aime l'amour qui fait boum.
Il va lui faire mal, il va lui faire mal.
Il n'avait plus que ses chaussettes, des belles jaunes avec des raies bleues. Il m'a regardé d'un œil bête, il comprenait rien, le malheureux. Et il m'a dit l'air désolé, je ne ferai pas de mal à une mouche. Il m'énervait, je l'ai giflé et j'ai grincé d'un air farouche. Me fais-moi mal, Johnny, je suis pas une mouche. Fais-moi mal, Johnny, moi j'aime l'amour qui fait boum.
Vas-y, fais-lui mal.
Voyant qu'il ne s'excitait guère, je l'ai insulté sauvagement. J'y ai donné tous les noms de la terre et encore d'autres bien moins courants. Ça l'a réveillé aussi sec et il m'a dit, arrête ton chat, tu me prends vraiment pour un pauvre mec. Je vais t'en refiler de la série noire. Oh, tu me fais mal, Johnny, pas avec les pieds. Si, tu me fais mal, Johnny, j'aime pas l'amour qui fait bing.
Il lui a fait mal.
Il a remis sa petite chemise, son petit complet, ses petits souliers. Il est descendu l'escalier en laissant une épaule démise. Pour les voyous de cette espèce, c'est bien la peine de faire les frais. Maintenant j'ai des bleus plein les fesses et plus jamais je ne dirai fais-moi mal, Johnny, envoie-moi au ciel. Non mais fais-moi mal, Johnny, moi j'aime l'amour qui fait boum.
Oh Johnny.
Oh la vache, oh j'en ai marre alors.
Et oui, cette chère Magali Noël et Boris Vian dans Fais-moi mal, Johnny, évidemment, célèbre hommage à Johnny Friendly, le parrain des dockers de Sur les quais d'Elia Kazan. Voilà, alors, la même année, mes chers auditeurs, mes chères auditrices, assidus toujours d'Arrête-t-on Cinéma 107.5, se déroulait un autre film un peu plus léger, il est vrai, le fameux Sabrina de Billy Wilder, avec Audrey Hepburn, Humphrey Bogart et William Holden toujours. Audrey Hepburn, cher auditeur et chère auditrice, interprète le rôle du personnage de Sabrina, Cendrillon moderne, dans le sillage du succès de Vacances romaines qu'il a révélé et consacré l'année précédente, seulement à 24 ans. Le film est une adaptation de la pièce Sabrina Fair de Samuel Taylor. Il participera même à l'élaboration du scénario, dont les premiers rôles étaient joués sur scène en 1953 par Joseph Cotten et Margaret Sullivan. Sabrina Fairchild, puisque nous sommes dans le synopsisme, Sabrina Fairchild est la fille du chauffeur d'une famille d'industriels milliardaires, les Larrabee. Depuis son plus jeune âge, elle était prise du cadet des deux frères Larrabee, le vaniteux et volage David William Holden himself, alors que ce dernier ne la remarque même pas, que nenni de point du tout. Par dépit, elle va même tenter de se suicider, et comment va-t-elle procéder? Assez ridiculement, il faut bien l'avouer, elle s'enferme dans le garage des Larrabee et fait démarrer les 8 voitures, voilà. Pour finir, évidemment, étouffée. C'est un défi aussi au monde de son père, hein, puisqu'elle dit que la vie, c'est comme une limousine, la banquette devant, une derrière et séparée par une vitre. Pour éviter à tous une grosse gêne, on propose à Sabrina de s'éloigner. Et évidemment, tout cela sera financé par les Larrabee, et donc cette chère Sabrina va partir 2 ans à Paris. Et oui, c'est pour la richesse, hein. Il y en a d'autres, ça aurait été, je sais pas, dans le nord de la France, ou alors dans le Kentucky, ou je sais pas quoi, mais à Fordel, ou à Corpus Christi, au Texas, mais non, là c'est à Paris. Assez beau le cinéma, hein. C'est surtout quand même bien pratique au niveau des scénarios. Enfin, l'adolescente un peu gauche revient transformée. Elle est devenue une Transformers. Voilà, évidemment, c'est le coup classique du cinéma américain. Désormais, elle est une jeune femme sophistiquée et charmante. À un tel point que David peine à la reconnaître et se met même à la courtiser. Un grand classique du cinéma américain et même des séries américaines, hein. C'est vrai qu'il y a toujours la fille qui s'habille comme un mec et le jour évidemment du bal de la promo, elle s'habille en fille et là, waouh, comme elle est trop belle, oh vas-y, voilà, enfin bon, son frère aîné Linus, et pas Linux, rien à voir, Humphrey Bogart himself, et qui, à l'inverse de David, ne pense qu'aux affaires familiales, voit cette amourette d'un mauvais œil, évidemment puisqu'elle risque de compromettre le futur mariage de David avec une riche héritière et qui sert évidemment les intérêts de la famille. Alors lui, il va tenter même de la séduire, hein, cette fameuse Sabrina, pour faire diversion. Hein. Alors évidemment, après une série de quiproquos, de revirements, de coups de théâtre, tout finit par s'arranger. Voilà, David s'aperçoit qu'il aime sa fiancée, nom de gu, et tandis que Linus et Sabrina, Linus, mais quel nom, se découvrent mutuellement et sincèrement amoureux. J'ai envie de dire, mais comme ça tombe parfait ballot. Ah, ça aurait été plus compliqué qu'ils s'aiment pas du tout. Et là, comme de bien entendu, ils s'adorent. Oh, c'est beau, j'ai envie de vous dire. Mais évidemment, le dénouement se fait attendre. Les Larrabee au complet, la Smala, Larrabee. Ah, oh, la Smala, Larrabee. Non, mais des fois, on a des fulgurances en tant qu'animateur. Excusez-nous, oh, chers auditeurs. Évidemment, toute la famille Larrabee au complet sont convoqués pour signer les fameux accords avec la famille de la fiancée de David. Sabrina s'éloigne donc pour ne pas contrarier les projets de la famille. Elle part en bateau à vapeur, et oui, un grand classique, dirons-nous, en direction de l'Europe. Linus, pour la première fois de sa vie, évidemment, hein, parce qu'il était psychorigide, jusqu'à ce moment-là, en même temps, c'est Humphrey Bogart, hein, c'est pas Jim Carrey, quoi. Va agir de manière impulsive et il court rejoindre Sabrina à bord du bateau. Évidemment, c'est pas le bateau, hein, la croisière s'amuse, hein. Ouh là là, que nenni de point. Et là, il se souvient d'une leçon de Sabrina, le fameux petit coup, hein. Vous savez, dans les films, il y a toujours un geste qu'on fait, on dit « Ah, celui-là, il va être important !» la porte qui grince, la voiture qui refuse de démarrer. Il y a toujours un petit signe que tu te dis, ah, que ça c'est important, faut le garder en mémoire. Et ben voilà, donc lui il se souvient d'une leçon de Sabrina qu'elle lui avait fait quelques temps auparavant sur la manière de porter un chapeau à Paris. Et donc il fait remettre à un serveur le chapeau capricieux de la jeune femme qui prend le soleil. Le jeune serveur dira, il y a un monsieur qui vous demande de remettre le pli comme vous savez. Un geste qui marque évidemment la fin des péripéties et le début de la véritable love story. Voilà, en pluguette évidemment. Certains ont reproché à monsieur Billy Wilder d'avoir fait une comédie sentimentale et romantique qui exclut l'humour corrosif de ses premières œuvres. Voilà. C'est sans doute vrai, comme il est aussi vrai qu'avec une légèreté enjouée, monsieur Wilder ne fait pas non plus économie de sévères piques contre le modèle social, la division de la société en classes, l'impossibilité de franchir ces fameuses frontières, sauf bien sûr, évidemment, dans le cadre de contes de fées. Oui, parce que le conte de fées, c'est un truc, ta droite, c'est tout est possible. Tout est possible, tout est imaginable. C'est le grand jeu des contes de fées. Alors si Audrey est toujours aussi lumineuse avec ce personnage qui affirme le charme de son style inimitable, les deux autres acteurs laissent plutôt à désirer. Hein. Si Holden s'en sort sans honte ni gloire, il n'en est pas de même pour monsieur Humphrey Bogart qui est complètement hors sujet. Le rôle devait être confié à Cary Grant, acteur évidemment taillé sur mesure pour ce genre de personnage. En 1995, Sidney Pollack, 1934 et 2008, réalise un remake qui soutient la comparaison avec l'original, interprété cette fois-ci par Julia Ormond, qui joue Sabrina, Harrison Ford, cette fois-ci en atterrissant un petit peu mieux, joue Linus et Greg Kinnear joue David. Voilà notre chère Sabrina avant ma fair lady. Hein, voilà qui va couronner la carrière. Et Breakfast at Tiffany, voilà qui va évidemment faire la joie de la carrière de cette chère Audrey Hepburn. Eh bien, mes chers compagnons, on va lancer un petit hommage à cette fameuse Audrey Hepburn par les mots de notre cher chanteur enchapeauté. Non, je ne pense pas à une chanteuse française, mais bien à un chanteur nord-américain, notre cher Jim Iroquois, dans son fameux Cosmic Girl. Voilà une spéciale dédicace à Audrey Hepburn. Voilà, she is a cosmic girl. She was from another time. Cosmic Girl, James Iroquois. Voilà, ce qui me fait penser à ce fameux clip, hein, on le voit évidemment avec ses Lamborghini et tout, puisqu'il faut savoir qu'on lui avait retiré son permis, et donc monsieur Jimmy Rockway, comme un subtil pied de nez à l'administration américaine, avait décidé de faire son clip, évidemment en conduisant des voitures. La joie évidemment des artistes qui peuvent conduire des voitures pareilles. Voilà, c'était la petite note, arrête-toi ton cinéma, voilà, sur la chanson mondiale. Alors, chers auditeurs, chères auditrices, eh bien, je vais vous quitter, évidemment, de la voix, mais non du cœur. Hein, et je vous dis, évidemment, à la semaine prochaine, hein, où nous attaquerons peut-être, sait-on jamais, hein, la suite de ce siècle, avec cette fois-ci des films non américains, puisque logiquement il devrait y avoir les 7 samouraïs, et puis il y aura aussi l'icône James Dean, hein, évidemment, avec la fureur de vie. Alors, mes chers auditeurs et mes chères auditrices assidues d'Arrête ton cinéma, je vous exhorte ô combien de continuer d'aller voir au cinéma en vous posant cette question subtile: est-ce que trop de super-héros tue le super-héros? Et encore pire, est-ce que le super-héros est en train de tuer le cinéma moderne? Est-ce que le profit n'est pas en train de détruire la propre bête, le propre lieu du rêve qu'est le cinéma? Voilà, c'est une grande question que je vous laisse. Là aussi, je viendrai à 2h du matin pour récupérer les copies. C'était la question du bac 2015 d'Arrête ton cinéma. Eh bien, sur ce, je vais finir avec un petit morceau que j'ai extrait d'un film de seconde catégorie, qui est assez amusant, il est vrai tout de même, mais qui n'a pas bouleversé le monde du cinéma. C'est le fameux Scott Pilgrim contre le monde entier, avec le fameux Black Sheep, un morceau que j'adore. Donc voilà, je vais vous laisser terminer avec le fameux Mouton Noir, hein, voilà, car Arrête ton cinéma est le mouton noir du monde du cinéma. Voilà. Une dernière fois. Allez, ciao ciao les loustiques. Et je vous dis donc la semaine prochaine. Et sait-on jamais, en extra bit bonus, peut-être, on ne sait jamais, on m'a confié, voilà, il y a eu des tweets ou je ne sais quoi dans le blogosphère. On m'a dit que peut-être les filles allaient revenir. Alors croisez les doigts des mains, les doigts des pieds, les doigts de tout ce que vous voulez, même ceux du voisin, pour qu'elles reviennent. Voilà, sait-on jamais. Voilà, donc Black Sheep.
don't you let my favorite ride, man. Don't you let my favorite ride, man. Don't you let my favorite ride, man. Don't you let my favorite ride.